Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.
Moi, j'ai tendance à partager assez facilement les expériences qui m'arrivent parce que je me dis que ça peut servir à quelqu'un ou je peux aller chercher une info chez quelqu'un qui a vécu la même chose. Et en commençant à partager cette expérience-là, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes dans mon entourage avaient eu un test papillomavirus revenu positif par le passé, en fait. Et c'est des choses qu'on ne sait pas, dont on ne parle pas, en fait, tout simplement.
Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Pour cette nouvelle saison, nous vous réservons des surprises. En effet, Elle parle santé change de format. Dans un premier temps, chaque mois, vous allez découvrir notre invitée qui, cette fois-ci, va nous emmener avec elle dans les salles d'examen. Dans quelles circonstances ont-elles découvert la maladie? Quels examens ont été prescrits? Comment les ont-elles vécus? Comment s'est passée l'annonce? Et quels sont les contrôles à effectuer pour leur suivi? Mais ce n'est pas tout. Dans un second épisode, nous passerons de l'autre côté du miroir pour faire réagir un professionnel de santé. Peut-on atténuer l'angoisse, le stress des examens? Sont-ils douloureux? Comment s'y préparer? Comment annoncer une mauvaise nouvelle? Ou encore, à quel rythme doit-on se faire suivre? Et si finalement, faire rencontrer ces deux mondes permettait d'améliorer le vécu de ces moments tant redoutés? Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle, 39 ans, qui a découvert qu'elle avait contracté le papillomavirus détecté à la suite d'un frottis suivi d'un test HPV. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Catherine.
Bah, ravie de te recevoir aujourd'hui et merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice du podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices ?
Oui, bien sûr. Donc, comme tu le disais, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 39 ans. J'habite en Loire-Atlantique, entre Nantes et Angers, et je suis maman d'un petit garçon.
Voilà. Ok, il a quel âge ?
Il a 8 ans.
Ok, super. Donc en 2021, il y a 3 ans, tu veux un bébé. Donc ouais. Tu vas voir ton gynécologue pour la dépose de ton stérilet. Et là, il te fait un frottis de dépistage normal. Les résultats se font attendre. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Oui, alors il s'avère que voilà, effectivement, on souhaitait avoir un projet d'enfant, donc on fait le frottis classique suite à la dépose du stérilet, et il s'avère que je le fais en même temps qu'une copine ce jour-là, et elle a ses résultats et moi les miens ne reviennent pas.
Mais elle a les résultats combien de temps après? Une semaine, 15 jours?
Ouais, voilà, une semaine, 10 jours à peu près, et puis moi les résultats ne reviennent pas, ne retombent pas. Donc je me dis, pas de nouvelles, bonne nouvelle, peut-être. Et puis il traîne vraiment à arriver. Et puis, au bout d'un mois...
Un mois, c'est long. Hein.
Ouais, c'est long. Je dois faire une consultation médicale. Donc, je tombe sur un autre médecin que le mien qui pense que je viens pour mes résultats de frottis.
Mais t'as pas appelé ta gynéco dans ce laps de temps d'un mois? T'as pas pensé à appeler ta gynéco?
Non, pas spécialement, parce que les frottis, je les avais toujours fait régulièrement et puis il n'y avait jamais eu de problématique. J'aurais pas imaginé d'ailleurs de problématique éventuelle suite à un frottis, donc je ne m'inquiétais absolument pas. Et puis à l'époque, j'étais vraiment dans une projection différente de grossesse, etc. Donc c'était pas une inquiétude du tout, ce résultat. Donc je vois mon médecin suite à l'autre consultation qui m'explique que mes résultats sont bien arrivés et puis qu'il fallait qu'il me rencontre puisqu'ils n'étaient pas tout à fait satisfaisants, on va dire.
C'est ces mots ?
Qu'ils n'étaient pas bons, on va dire.
D'accord.
On m'a dit que le résultat du frottis qui était revenu n'était pas très bon. Voilà, c'est ça un peu les termes.
D'accord. Donc on te parle que de frottis en fait.
Voilà, c'est ça. Je dis bon, d'accord, très bien, et qu'on va m'envoyer voir un spécialiste et qu'on va me donner les résultats de mon frottis, en fait. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas la notion d'un test autre que le frottis. Je crois que c'est les résultats du frottis uniquement qui reviennent, en fait.
Oui, je comprends, bien sûr.
Voilà. Et donc, c'est suite à la prise de rendez-vous avec un spécialiste qu'on m'explique qu'en fait, Il y a eu des tests supplémentaires liés au papillomavirus et qu'ils sont revenus positifs et que donc je dois consulter quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine. Voilà.
Mais quand tu dis spécialiste, du coup, tu n'étais plus dans les mains de ta gynéco?
Alors, j'étais dans les mains de mon médecin de famille, là, jusqu'ici.
D'accord. Okay.
Qui m'envoyait vers une personne qui n'était pas pas forcément un gynécologue qui consulte pour tout type de choses. Là, c'était vraiment une personne dans le centre où je suis allée qui s'occupait des patientes qui avaient des résultats de papillomavirus positifs.
D'accord. Ok. Et donc, là, t'apprends qu'on t'a fait un test. On le voilà. Nomme d'ailleurs, on te dit test HPV.
Non, on me dit que je suis porteuse du papillomavirus.
Et tu savais ce que c'était ?
Ben non, pas tellement.
Ouais, bah, j'imagine.
Non, je découvre plein de choses. Je découvre qu'en fait, le frottis, c'est autre chose que le test HPV. En fait, enfin, qu'effectivement, par l'acte du frottis, on va réaliser un test HPV, mais que c'est pas la même chose que l'on recherche. Donc, je découvre ça. Je découvre, effectivement, le j'en avais vaguement probablement entendu parler du papillomavirus, mais je fais partie de la génération qui est passée juste après le vaccin. Donc, on a entendu vaguement des choses, mais ça me parlait pas beaucoup. Et puis surtout, je savais pas exactement ce que ça voulait dire, en fait, ce que c'était et ce que ça voulait dire.
Bien sûr.
Donc, je découvre tout ça à ce moment-là.
Et comment t'as géré émotionnellement toute cette période, l'attente et puis après l'annonce, etc. Comment t'as géré?
Bah, la première attente, je l'ai plutôt bien gérée parce que ça me paraissait pas. Enfin, je me disais, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc là, sur la première fois, je ne m'inquiétais pas. Quand on m'a dit que j'allais aller voir un spécialiste parce que j'étais porteuse du papillomavirus, là, je me suis dit, bon, ok, il commence à se passer quelque chose. Sans paniquer des masses, parce que bon. Je me dis, à partir du moment où on me présente à un spécialiste de quelque chose, c'est qu'on a une solution pour moi. Donc voilà. Mais je ne savais pas pourquoi j'y allais vraiment, par contre.
Bien sûr.
Donc jusque-là, je n'étais pas très, très inquiète.
Et après ?
Et après, c'est quand j'ai rencontré la personne du centre spécialisé, voilà, dans les patientes qui sont porteuses du papillomavirus, que là, j'ai commencé à comprendre que c'était quand même un petit peu sérieux ce qui se passait. Voilà.
Oui, je comprends. Et il a été rassurant ou il a été... comment ça s'est passé avec ce spécialiste du papillomavirus ?
Alors, cette personne-là a été extrêmement rassurante parce qu'elle a assez rapidement vu que je n'avais pas compris pourquoi j'étais là.
J'imagine beaucoup de femmes à qui ça arrive, hein.
Voilà. Alors ça, je l'ai découvert après, effectivement. Mais sur le coup, moi, j'y suis allée, voilà, complètement ignorante de ce qui allait se passer. Et puis surtout, je savais pas vraiment pourquoi. Et lui, il l'a tout de suite vu. Donc, il a été très rassurant, mais en même temps assez abrupte, en disant « Ben non, mais là, vous êtes quand même là parce que vous êtes porteuse du papilloma, mais vous êtes porteuse de certains papillomas en particulier. » Donc là, je découvre encore autre chose, qu'en fait, le papillomavirus est composé de tout un tas de nombres, et en fonction de leur nombre, on va dire que ça inquiète plus ou moins les médecins, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et toi, tu faisais des frottis régulièrement, et on t'avait jamais parlé de ce test, donc.
Non.
Ouais. Et autour de toi, personne n'en avait parlé, t'avais pas d'amis à qui c'était arrivé, parce que le papillomavirus, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, hein, on en est
exactement,
tous...
Exactement, c'est hyper fréquent.
C'est hyper
fréquent. En fait, c'est quand il arrive quelque chose après et qu'on en parle un peu, on se rend compte que beaucoup de personnes sont passées par là. Mais sinon, c'est pas forcément quelque chose dont on parle assez facilement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'apéro, on dit bah ouais. et alors t'as le papilloma.
Dans test HPV, ça donne pas.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, j'ai tendance à partager assez facilement les expériences qui m'arrivent parce que je me dis que ça peut servir à quelqu'un ou je peux aller chercher une info chez quelqu'un qui a vécu la même chose. Et en commençant à partager cette expérience-là, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes dans mon entourage avaient eu un test papilloma revenu positif par le passé, en fait. Et voilà, et c'est des choses qu'on ne sait pas, dont on ne parle pas, en fait, tout simplement.
Et donc, du coup, tu as posé des questions, j'imagine, et puis tu as fait des recherches, parce que maintenant, tu es au top niveau des informations sur le test HPV et le papilloma. Tu penses qu'il faudrait qu'on en parle plus, est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait systématiquement? Est-ce qu'il faudrait que les femmes en parlent avec leur médecin?
Alors, il me semble que maintenant, il est fait systématiquement quand il y a un frottis, ou en tout cas, il est fait plus fréquemment. Mais ce serait bien, oui, que... Alors, je pense que sur une plus jeune génération, étant donné qu'il y a la vaccination qui a été mise en place, le sujet est un peu plus évident.
Ouais, si ce n'est que tout le monde n'est pas vacciné.
Voilà, c'est ça. Au-dessus de 30 ans, je pense, pour être un peu large, peut-être que ça peut être bien de reparler un peu de ces termes-là, de dire en fait que ça existe, que c'est un virus, qu'on est énormément à être porteur, que ça peut avoir des conséquences ou pas, la manière dont on peut l'attraper. Et puis surtout que ça existe, en fait, parce que...
Mais est-ce que tu penses que ça doit devenir de la part des médecins d'en parler, etc., au moment du frottis, hein, les frottis réguliers, ou est-ce que tu penses que les femmes doivent être aussi moteurs en disant, en allant chez son gynéco, à l'occasion du frottis, est-ce que vous allez me faire le test HPV, etc. Est-ce que tu penses que les patientes peuvent être moteurs dans ce changement de paradigme, en fait?
Elles peuvent, je pense, mais à la base, je pense qu'il y a pas mal d'ignorance sur ce sujet-là auprès du grand public. Donc, si on n'est pas suffisamment informé, on peut pas. Alors, on pourra toujours demander ce que c'est, si tant est qu'on le connaisse le mot.
Mais bien sûr.
Comme si moi, par exemple, dans mon cas, je savais même pas qu'il y avait un test HPV en même temps que le frottis. Donc, c'est-à-dire que c'est un mot que j'ai découvert quand c'est revenu. C'est-à-dire que je pense que mon frottis aurait été de toute façon bon, on n'en parlait jamais.
C'est ça.
Donc, je pense que oui, si les femmes sont au fait que ça existe et qu'elles ont des interrogations dessus, oui, il faut poser toutes les questions possibles à son médecin, à son gynécologue. Il faut pas s'en priver. Par contre, quand on n'a pas notion de ça, moi, je crois que ce serait bien aussi que de la part du corps médical, on en parle un peu plus parce que c'est extrêmement répandu. Et c'est répandu autant dans la population féminine que masculine.
Absolument.
Donc, en fait, les hommes ne vont pas être concernés de la même manière. Effectivement, les femmes, ça va être lors d'un frottis, qu'on peut savoir si on est porteuse ou pas. Mais les hommes sont concernés. Et peut-être que ce qui se passe au niveau des collèges en ce moment, avec des grandes campagnes de sensibilisation et d'information, c'est peut-être une bonne chose. Après, voilà, chacun fera son choix pour le vaccin ou pas. Mais je pense que ce sont... c'est de l'éducation, en fait.
Oui, mais tu as raison. D'ailleurs, toi, tu en fais beaucoup, tu fais beaucoup de prévention. Tu m'as même dit avoir sauvé, entre guillemets, deux amis à toi.
Et alors, sauvé, je ne sais pas, mais en tout cas, mon expérience a fait que j'ai souhaité informer sur ça dans mon entourage, en tout cas proche, et puis après, étendu lorsque c'est possible, pour informer sur le dépistage du papillomavirus et ses conséquences éventuelles, et que c'est extrêmement important d'être de faire son frottis, même si c'est pas forcément ce qu'on préfère faire, ça dure 5 minutes et on peut être tranquille pendant plusieurs années derrière. Et oui, j'ai des amis qui ont eu, en fait, suite à mon expérience, quelques mois après, ont fait leur frottis de dépistage et il s'est avéré qu'elles étaient également porteuses du papilloma, en tout cas de papilloma un peu virulent.
Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas assez de gynécologues. Tout le monde ne va pas voir son gynécologue, mais on peut aller voir des sages-femmes, on peut aller voir des médecins généralistes qui sont habilités à faire des frottis, etc., etc. Bon, c'est vrai aussi que c'est pas l'examen le plus agréable qui soit, mais comme tu dis, c'est quelques minutes et ça vaut vraiment le coup de s'en préoccuper et de le faire.
C'est indispensable.
Régulièrement.
Ça dure 5 minutes pour être tranquille pendant des années.
Absolument.
Donc ça n'a pas de prix, en fait.
Et alors justement, je recevrai un médecin gynécologue dans le prochain épisode, comme je disais en début de cet épisode-là, qui va réagir à certains de tes propos. Alors est-ce que tu as un message à lui faire passer, outre le fait qu'il faut en parler à ses patientes, ou une question peut-être ?
Alors j'ai un petit peu interrogé certaines personnes autour de moi.
T'as préparé le podcast en fait.
En fait le papilloma, je commence un petit peu à bien le connaître. Alors je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'avoir la vie de personnes, peut-être un peu moins concernées par ce que moi j'ai vécu.
Ouais.
Les questions étaient surtout autour de donc comme je disais, c'est un virus, on le connaît plus ou moins vaguement, mais en fait, réellement, comment ça s'attrape ? De quelle manière ça s'attrape, en fait, réellement ? Comment on le transmet ? Et puis, il y avait une question intéressante, c'était que quand on a eu un test HPV, parce que depuis cette expérience et le fait qu'on ait soigné ce que j'avais, moi, mes tests papilloma reviennent négatifs systématiquement, aujourd'hui.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Ce qui est une excellente nouvelle. On parle d'un virus qui dort, qui se réveille et qui dort. Alors la question, c'est ça. C'est voilà, il s'est réveillé un jour, on l'a soigné, il s'est endormi. Est-ce qu'il peut se réveiller de nouveau ?
Oui,
est-ce qu'il sommeille toute la vie et puis paf, il se réveille comme ça ? Comment ça fonctionne en fait ?
Oui, c'est une question très intéressante, d'autant qu'on ne l'a pas dit lors de ce podcast, mais malheureusement, toi, tu es allé un peu plus loin et donc tu as eu un cancer du col de l'utérus.
C'est ça, c'est ça.
Ouais.
Donc, qui s'est bien, ça s'est bien terminé là-dessus pour moi. Mais alors ça peut être intéressant parce que les conséquences du papilloma sont pas juste des fois on est porteur ou pas. Ça peut aller plus loin et ça, je pense que c'est intéressant de communiquer là-dessus. Mais il y a beaucoup de campagnes qui sensibilisent à ça, plein d'associations que tu connais, on en a parlé, qui sensibilisent à ça. Mais étant donné le grand nombre de personnes porteurs, voilà, parce que c'est quasiment 80% de la population de mémoire. Chez certains, ils dorment, chez certains, parfois, ils se réveillent. Est-ce qu'un jour, quand il s'est réveillé une première fois et qu'il s'est endormi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer qu'il se réveille de nouveau ? Voilà, c'est un truc quand même qui pose question, vu qu'on parle d'un virus en sommeil.
Donc pour résumer, tu as trois questions.
Ouais.
C'est comment Non, mais au contraire, tu as fait mon boulot. Hein. Comment ça s'attrape ?
Vraiment, voilà, vraiment. Parce que je pense qu'on n'a pas assez de communication là-dessus.
Comment ça se transmet ?
Ouais.
Voilà. Et est-ce que si on est soigné qu'il a disparu, est-ce qu'il peut se réveiller des années plus tard ?
Voilà, c'est ça.
Ok.
Exactement.
Super. Eh ben, écoute, il va falloir attendre un petit mois pour avoir les réponses du médecin gynécologue que je vais recevoir fin mars. Mais et tu l'écouteras et on sera ravis d'entendre ses réponses.
Ben, je serai ravie également.
En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. J'étais vraiment très, très, très contente de te recevoir. D'autant que, on peut le dire, c'est lors d'un appel sur nos pages Facebook et Instagram que tu as gentiment répondu pour participer à ce podcast. Donc, restez bien attentifs. De temps en temps, on fait comme ça des appels à témoignages. En tout cas, merci beaucoup et d'avoir répondu à cet appel, Emmanuel, et surtout d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Oui. Ben, merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment un plaisir. J'ai été extrêmement bien accueillie par toi pour être en confiance pour répondre à tes questions et c'était réellement un plaisir.
Moi aussi. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'un médecin gynécologue qui nous éclairera sur l'importance de faire ce test et réagira aux propos d'Emmanuel. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, notez et partagez-le avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram, comme je le disais. Elle s'appelle Elle parle santé, comme le podcast, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas l'importance du dépistage. Quel que soit le dépistage et au moindre doute, consultez votre médecin. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.